Allez, on passe tout de suite au chiffre. Vous avez quelque chose à dire sur le...
Non, rien. C'est toujours des trucs à dire.
Non, mais on passe au chiffre de la semaine. La croissance, alors, Big Flo et Oli nous disent qu'on comprendra plus tard, mais moi, j'aimerais comprendre. Ici même, hein, on expliquait, moi y compris, hein, moi, je me trompe toujours, mais ça, c'est pas grave, qu'il fallait 18 mois pour qu'une hausse de taux affecte l'économie, et ça allait, ça y est, ça arrivait, on avait fait le calcul, 18 mois, c'était à peu près maintenant. On évoquait même le risque de récession, notamment aux États-Unis. En fait, rien de ce qui s'est dit ici ne s'est produit. Christopher, comment on explique ça ?
Il y a deux phénomènes pour l'économie américaine. Un, sur le marché de l'immobilier, en fait, on avait la vision que le marché de l'immobilier était surtout dépendant de taux qui étaient flexibles. En réalité, plus de 90% des taux sont fixes. Alors, bien sûr, pas les mêmes échéances qu'en Europe. On n'est pas sur du 20 ans fixe, etc. Et l'autre phénomène, c'est si vous regardez aussi bien les créations d'emplois que le chiffre révisé de la croissance au T4 2023 pour les États-Unis, on voit quand même une contribution très importante du secteur public. Et derrière cela, bien sûr, c'est le fameux déficit qu'on a évoqué, l'IRA, bien sûr. Et tout ça fait que vous avez une économie américaine qui surperforme. Je le rappelle quand même, le chiffre de la croissance au T4 révisé en hausse, 3,4%.
Oui, mais l'effet des taux d'intérêt, moi je pensais qu'il allait avoir un sort de mur, ces fameux 18 mois, et que là on allait
Les consommateurs américains, bien sûr, bénéficient de l'épargne Covid qui est quasiment consommée. Deuxième point, il est moins réceptif du fait du marché de l'immobilier. On n'a pas tant de prégnance des taux flexibles. Et le tout dernier point, si vous regardez le revenu personnel, le chiffre du revenu personnel, vous voyez pour le mois de janvier, en tout cas et début février, que vous avez aussi un autre élément qui compte, les hausses de salaire, bien évidemment. Et on a encore cette accélération pour ceux qui changent d'emploi. Plus de 10% pour ceux qui changent d'emploi, de hausse de salaire en moyenne. Et le tout dernier point, c'est que vous avez encore des subventions publiques qui continuent aussi d'aider les ménages. Donc finalement, il y a trois coussins de sécurité qui se superposent, ce qui fait que l'économie est quand même plutôt solide.
Ce mur de la hausse des taux, Christopher a donné des explications pour les États-Unis. Il nous touche en Europe et aux États-Unis, on explique qu'il ne les touche pas parce que vient d'expliquer Christopher.
Oui, il y a, et puis vous l'avez évoqué, il y a quand même la politique budgétaire qui, en fait, a joué un peu un rôle de compensateur. C'est-à-dire que vous appuyez, en fait, vous pilotez l'économie américaine comme un pilote de rallye conduit sa voiture. Vous appuyez en même temps sur le frein et l'accélérateur. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, les États-Unis ont appuyé sur le frein monétaire en appuyant sur l'accélérateur budgétaire en même temps. Donc, vous avez. Après, il y a risque de tête à queue, mais apparemment, pour l'instant, c'est maîtrisé. Je ne dirais pas quand même que les taux d'intérêt sont assez sans effet. Quand vous regardez l'investissement, non pas en immobilier, mais l'investissement dans les nouvelles constructions, l'investissement des ménages en construction, là, il y a quand même eu... le mur est arrivé. Mais là, il a chuté.
Je suis d'accord, mais d'un point de vue macro...
Ah oui, mais parce que d'un point de vue macro, ce qui s'est passé sur le budgétaire, à partir du moment où on ciblait l'investissement des entreprises, eh bien, il y a eu un effet de compensation. Vous avez... Je vais prendre un exemple qui nous a été rapporté hier quand on faisait un événement sur la transition énergétique. Vous avez un acteur qui fabrique des cimenteries qui nous explique qu'il va équiper une cimenterie aux États-Unis. Vous avez une subvention à hauteur de 500 000, le budget total c'est à peu près 2 milliards sur cet investissement. Vous avez 500 millions de crédits d'impôt et vous avez 1 million de subventions qui interviennent. Donc vous avez déjà l'essentiel de l'investissement qui est fait. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez les États-Unis siphonnent l'épargne en Europe.
500 millions de crédits d'impôt et 1 milliard.
Et un milliard de subventions. Donc l'essentiel de l'investissement est fait. Donc c'est pour ça que c'est assez facile au total de soutenir un investissement productif qui vient compenser l'effet, la morsure qui existe.
Et nous, le mur de la hausse des taux en Europe, on l'a là ?
Ah oui, nous on l'a, mais et là encore, on le voit de manière, ça a été dit tout à l'heure, hein, on le voit par Louis, on le voit sur le secteur de la construction. C'est là qu'il s'exprime également à plein. Il s'exprime également petit à petit sur les entreprises où on voit qu'on n'a pas du tout la même dynamique en termes d'investissement. L'investissement, il est en train de reculer en Europe. Et là, c'est totalement l'ombre portée de ce qui s'est passé sur les taux. Donc, et on n'a pas de compensation budgétaire.
Oui.
Je pense que ce qui fait la grande différence aussi entre l'Europe et les États-Unis, c'est les gains de productivité. En fait, 80% de la croissance, c'est la consommation. Et aux États-Unis, on voit qu'elle tient et c'est plus forcément le coussin de l'époque du Covid, mais c'est les gains de productivité qui permettent d'avoir des hausses de salaire sans alimenter l'inflation. Finalement, c'est ça le mécanisme vertueux aux États-Unis. Or, en Europe, on a un problème inverse, c'est que on a une perte de productivité. Donc, j'avais dit une fois ici, qu'est-ce que la croissance économique ? C'est tout simplement la variation de l'heure travaillée.
Qui se cite lui-même.
Voilà. qu'est-ce que la croissance économique ? C'est la variation d'heure travaillée plus la variation de l'output par heure travaillée. Donc, si vous avez de moins en moins d'heures travaillées parce que la démographie est défavorable et qu'en plus, vous avez un baisse de l'output par heure travaillée, vous avez nécessairement une économie qui...
Alors, le thème de la productivité, c'est, on l'entend de plus en plus, hein, Christopher. C'est-à-dire que c'est devenu un facteur d'explication du fossé grandissant. Parce que j'ai envie de dire béant qui se fait entre les États-Unis et la zone euro. C'est un gros facteur d'explication.
Ah, c'est un gros facteur, parce qu'effectivement, quand vous avez une productivité qui est quasiment négative, ou en tout cas proche de zéro en zone euro.
Négatif, je crois, non ?
Le dernier chiffre du T4, effectivement, je crois que c'était négatif. Et de l'autre côté, aux États-Unis, où par trimestre, c'est 3-4%, bien évidemment, il y a un différentiel qui va s'expliquer. Mais dans le même temps aussi, en Europe, on en parle beaucoup sur les plateaux, mais vous n'avez pas de politique publique aujourd'hui en Europe. Dans les secteurs où on devrait investir, où on sait qu'on pourrait avoir des gains de productivité.
Donc il n'y a pas d'effet de compensation dont a parlé Denis, c'est-à-dire que d'un côté on a la hausse des taux, mais de l'autre on n'a pas la politique budgétaire
expansionniste. Oui, en ayant malgré tout un déficit assez important. Le seul pays aujourd'hui en Europe qui a un déficit budgétaire élevé et qui est expliqué par des choix de politique publique, c'est la Pologne qui habituellement était vertueuse à cet égard, mais c'est l'un des trois pays européens qui a ses 4% de PIB en défense. Donc ils ont augmenté le budget de la défense. Si vous regardez l'Italie et la France qui sont les mauvais élèves, derrière ça, il n'y a pas de politique publique.
Question très rapide, réponse rapide. La productivité aux États-Unis, pendant des années, on nous a dit stagnation, ça ne bouge pas. Et puis d'un coup, c'est en train de faire la une. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Des choix sectoriels. En fait, quand vous regardez ce qui explique le différentiel de productivité entre les États-Unis et la zone euro, c'est le secteur de l'énergie et le secteur de la tech. L'essentiel de la différence de gain de productivité, enfin les deux tiers à peu près sont expliqués par le comportement, ils ont une spécialisation sur ces secteurs que nous n'avons pas. Et à la fin, la productivité, ça compte, parce que c'est ça qui va expliquer l'écart que l'on a en termes de PIB par habitant. Je rappelle toujours ce chiffre, en France, le PIB par habitant en France, c'était 93% du PIB par habitant des États-Unis en 82, on est maintenant à 73%, avec les prévisions que l'on a à 5 ans, on est à 70%. Donc on a un appauvrissement relatif, et l'essentiel, sinon l'intégralité est expliquée par le comportement de la productivité.
Le match est plié sur la productivité entre l'Europe et les États-Unis.
Non, c'est jamais plié. Mais il faut de l'investissement, et l'investissement, pour l'instant, il ne se fait pas ici.
Ouais, donc c'est plié.